Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc dans nos lectures en liberté en ce début de semaine pour la suite du roman de Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Cathy resta à Thrush Cross 5 semaines jusqu'à Noël. Durant ce laps de temps, sa cheville se guérit complètement et ses manières s'améliorèrent beaucoup. Ma maîtresse lui rendit de fréquentes visites pendant cette période et commença l'application de son plan de réforme en essayant d'éveiller chez elle l'amour-propre par des vêtements élégants et des flatteries qu'elle accepta volontiers. Si bien qu'au lieu d'une petite sauvageonne entrant nu-tête en coup de vent dans la maison et se précipitant pour nous étouffer sous ses embrassements, nous vîmes descendre d'un joli poney noir une personne très digne, avec des boucles brunes qui pendaient sous un chapeau de castor à plumes et un long vêtement de drap qu'elle était obligée de relever avec les deux mains pour pouvoir marcher. Hindley l'enleva de cheval en s'écriant d'un air ravi « Mais Cathy, te voilà une vraie beauté. C'est à peine si je t'aurais reconnue. Tu as l'air d'une dame maintenant. Isabelle Linton ne soutiendrait pas la comparaison avec elle, n'est-ce pas, Frances ?» Isabelle n'a pas les mêmes avantages naturels, répondit Madame Earnshaw. Mais il faut que Cathy fasse attention et ne reprenne pas ici ses manières de sauvage. Hélène, aidez Miss Catherine à se dévêtir. Ne bougez pas, ma chère, vous allez déranger vos boucles. Laissez-moi retirer votre chapeau. Je la débarrassai de son habit de cheval sous lequel apparurent une belle robe de soie écossaise et un pantalon blanc tombant sur ses souliers reluisants. Quand les chiens arrivèrent en bondissant pour faire fête, ses yeux étincelèrent de joie, mais elle osa à peine les toucher de crainte qu'ils ne missent leurs pattes sur ses magnifiques atours. Elle me donna un baiser discret. J'étais couverte de farine car j'étais prêt à faire un gâteau de Noël et ce n'était pas le moment de me serrer dans ses bras. Puis elle chercha autour d'elle Heathcliff. Monsieur et Madame Earnshaw attendaient avec anxiété leur rencontre qui, pensaient-ils, leur permettrait d'apprécier dans une certaine mesure si leur espoir d'arriver à séparer les deux amis était fondé. On eut d'abord du mal à découvrir Heathcliff. S'il était insouciant et si l'on se souciait peu de lui avant l'absence de Catherine, c'était devenu 10 fois pire maintenant. Personne d'autre que moi n'avait même la bonté de lui dire qu'il était sale et de l'obliger à se laver au moins une fois par semaine. Et les enfants de son âge ne sont en général pas naturellement portés à trouver plaisir au savon et à l'eau. Aussi, sans parler de ses vêtements qu'il traînait depuis 3 mois dans la boue et dans la poussière, ni de son épaisse chevelure hirsute, sa figure et ses mains étaient-elles fâcheusement obscurcies. Il n'avait pas tort de se cacher derrière le banc en voyant entrer dans la salle une si brillante et gracieuse demoiselle au lieu de la réplique ébouriffée de lui-même qu'il attendait. « Heathcliff n'est pas ici ?» demanda-t-elle en ôtant ses gants et montrant des doigts qui avaient extraordinairement blanchi grâce à l'oisiveté et à la réclusion. « Heathcliff, tu peux venir ?» cria M. Hindley, enchanté de sa déconfiture et très content de voir qu'il était forcé de se présenter comme un jeune polisson repoussant. « Tu peux venir souhaiter la bienvenue à Miss Catherine, comme les autres domestiques. » Cathy Apercevant son amie dans sa cachette, il courut pour l'embrasser. Elle lui appliqua 7 ou 8 baisers sur chaque joue en une seconde, puis s'arrêta et, reculant, éclata de rire en s'écriant « Oh ! Que tu as l'air sinistre et de mauvaise humeur, et que tu es drôle et vilain. Mais c'est parce que je suis habitué à Edgar et à Isabelle Linton. Eh bien, Heathcliff, m'as-tu oublié ?» Elle avait quelque sujet de lui poser cette question, car la honte et l'orgueil assombrissaient doublement son visage et le tenaient immobile. « Donnez-lui la main, Heathcliff, » dit M. Earnshaw avec condescendance. « Une fois en passant, c'est permis. » « Je ne veux pas, » répliqua le jeune garçon, retrouvant enfin sa langue. « Je ne resterai pas ici pour qu'on se moque de moi, je ne le supporterai pas. » Et il se serait échappé si Miss Katy ne l'eût saisi de nouveau. « Je ne voulais pas rire de toi, » dit-elle. « Je n'ai pas pu m'empêcher. Heathcliff, donne-moi au moins la main. Pourquoi boudes-tu ? C'est seulement parce que tu avais un air si étrange. Si tu te lavais la figure et si tu te peignais, ce serait parfait. Mais tu es si sale. » Elle regardait avec inquiétude les doigts noirs qu'elle tenait dans les siens et aussi sa robe qui, craignait-elle, n'avait pas gagné au contact avec les vêtements de Heathcliff. « Tu n'avais qu'à pas me toucher, » répondit-il en suivant son regard et retirant vivement sa main. « Je serai sale si ça me plaît. J'aime à être sale et je veux être sale. » Là-dessus, il s'élança, tête baissée, hors de la pièce, au milieu des rires du maître et de la maîtresse, et au grand émoi de Catherine qui ne comprenait pas comment ses remarques avaient pu déterminer cet accès de mauvaise humeur. Après avoir joué le rôle de femme de chambre auprès de la nouvelle venue, avoir mis mes gâteaux au four et égayé la salle et la cuisine avec de grands feux comme il convenait à cette veillée de Noël, je me disposais à m'asseoir et à me distraire en chantant des cantiques toute seule, sans me soucier des affirmations de Joseph qui déclarait que les airs gais que je choisissais étaient presque des chansons. Il s'était retiré pour faire ses dévotions particulières dans sa chambre. Monsieur et Madame Earnshaw occupaient l'attention de Missy en lui montrant quelques brimborions achetés pour lui permettre d'en faire présent au petit Linton en reconnaissance de leur amabilité. Il les avait invités à passer la soirée du lendemain à Hurlevent, invitation qui avait été acceptée à une condition. Madame Linton demandait que ses chéris fussent soigneusement tenus à l'écart de ce vilain garçon qui jurait. C'est dans ces circonstances que je me trouvais seul. Je savourais la riche odeur des épices qui cuisaient. J'admirais la batterie de cuisine étincelante, l'horloge brillante couverte de houx, les pots d'argent rangés sur un plateau prêt à être remplis d'ailes chaudes et épicées pour le souper, et surtout l'irréprochable propreté de l'objet de mon soin particulier, le carrelage, bien lavé et bien balayé. J'accordais à toutes ces choses l'applaudissement intérieur qu'elles méritaient, et je me rappelais que le vieil Earnshaw venait toujours, quand tout était nettoyé, m'appelait brave fille et me glissait un shilling dans la main comme cadeau de Noël. Cela me fit penser à la tendresse qu'il avait pour Heathcliff, à sa crainte que celui-ci ne fût négligé quand lui-même aurait disparu. J'en vins naturellement à méditer sur la situation actuelle du pauvre garçon, et des chansons je passais aux larmes. Il me vint pourtant bientôt à l'esprit qu'il serait plus sensé d'essayer de remédier à quelques-uns des torts dont il était victime que de verser des pleurs sur ses torts. Je me levai et sortis dans la cour pour le chercher. Il n'était pas loin. Je le trouvai dans l'écurie. Il caressait le poil luisant du nouveau poney et donnait à manger aux autres bêtes, comme à l'ordinaire. « Dépêchez-vous, Heathcliff, » lui dis-je. « Il fait si bon dans la cuisine et Joseph est en haut. Dépêchez et laissez-moi vous faire beau avant que Miss Katy descende. Vous pourrez alors vous asseoir ensemble, vous aurez la cheminée tout entière à vous deux et vous bavarderez tant que vous voudrez jusqu'à l'heure du coucher. » Il continua son travail sans même tourner la tête de mon côté. « Allons, venez-vous, » repris-je. « Il y a pour chacun de vous un petit gâteau qui est presque cuit. Il vous faut une demi-heure pour vous habiller. » J'attendis 5 minutes, mais n'obtenant pas de réponse, je le quittai. Catherine soupa avec son frère et sa belle-sœur. Joseph et moi partageâmes un repas assez peu cordial, assaisonné de reproches d'un côté et d'impertinence de l'autre. Le gâteau et le fromage de Heathcliff restèrent sur la table toute la nuit à la disposition des fées. Il s'arrangea pour poursuivre son travail jusqu'à 9 heures, puis regagna sa chambre, muet et renfrogné. Cathy resta debout jusqu'à 1 heure avancée, ayant un monde de choses à ordonner pour la réception de ses nouveaux amis. Elle vint une fois dans la cuisine pour parler à l'ami ancien. Mais il n'était pas là. Et elle se contenta de demander ce qu'il avait, puis se retira. Le lendemain matin, il se leva de bonne heure et comme c'était jour de congé, il alla promener sa mauvaise humeur dans la lande. Il ne reparut que quand tout le monde fut parti pour l'église. Le jeûne et la réflexion semblaient l'avoir mieux disposé. Il tourna autour de moi un instant, puis, ayant rassemblé son courage, s'écria tout à coup « Nelly, faites-moi propre, je veux être sage. » « Il est grand temps, Heathcliff. Vous avez fait de la peine à Catherine. Elle regrette d'être venue à la maison, j'en suis sûr. On dirait que vous êtes jaloux d'elle parce qu'on s'occupe d'elle plus que de vous. » L'idée d'être jaloux de Catherine ne pouvait entrer dans sa tête, mais l'idée de lui faire de la peine était bien claire pour son esprit. « A-t-elle dit qu'elle était fâchée ? » demanda-t-il d'un air sérieux. « Elle a pleuré quand je lui ai annoncé que vous étiez encore parti ce matin. Eh bien moi j'ai pleuré cette nuit et j'avais plus de raison qu'elle pour pleurer. Oui, vous étiez allé vous coucher le cœur gonflé d'orgueil et l'estomac vide. Belle raison en vérité. Les gens orgueilleux se forgent à eux-mêmes des pénibles tourments. Mais si vous avez honte de votre susceptibilité, ayez soin de lui demander pardon quand elle rentrera. Vous irez la trouver, vous lui offrirez de l'embrasser et vous direz « Mais vous savez mieux que moi ce que vous lui direz. Seulement, faites-le de bon cœur. Et non comme si vous croyiez que sa belle robe l'a transformée en étrangère. Et maintenant, bien que j'aie à préparer le dîner, je vais dérober un moment pour vous arranger de telle sorte qu'Edgar Linton aura l'air d'une vraie poupée à côté de vous. Et c'est l'air qu'il a vraiment. » Vous êtes plus jeune et pourtant je parierais que vous êtes plus grand et 2 fois aussi large d'épaule. Vous pourriez le jeter par terre en un clin d'œil. Ne vous en sentez-vous pas capable ? » Le visage de Heathcliff s'éclaircit un moment, puis se rembrumit et il soupira. « Mais Nelly, quand je le jetterai 20 fois par terre, cela ne le rendrait pas moins beau, ni moi plus beau. Je voudrais avoir les cheveux blonds et la peau blanche, être aussi bien habillé, avoir d'aussi bonnes manières que lui et avoir une chance d'être aussi riche qu'il le sera. » Et appeler maman à tout bout de champ, ajoutai-je, et trembler si un petit paysan levait le poing contre vous et rester enfermé toute la journée à cause d'une averse. Oh, Heathcliff, vous faites preuve de bien peu de caractère. Venez devant la glace et je vous montrerai ce que vous devez désirer. Voyez-vous ces 2 lignes entre vos yeux, ces épais sourcils qui, au lieu de s'élever en décrivant une courbe, s'abaissent en leur milieu, et ces yeux noirs, démons si profondément enfoncés, qui jamais n'ouvrent hardiment leurs fenêtres, mais épient par en dessous comme des espions du diable. Appliquez-vous à effacer ces rides sinistres, à lever franchement les paupières, à changer ces démons en anges confiants et innocents, affranchis du soupçon et du doute, et voyant toujours des amis là, où ils ne sont pas certains d'être en présence d'ennemis. Ne prenez pas l'expression d'un chien vicieux qui a l'air de savoir que les coups de pied qu'il récolte sont bien mérités et qui pourtant, pour la souffrance qu'il ressent, hait tout le monde aussi bien que celui qui lui donne les coups.
You've been lying in bed for a week now, wondering how long it'll take. You haven't spoke or looked at her in all that time. For they were the easiest lines it could break. She's been going round her business as usual, always with that melancholy smile that you were too busy looking into your eyes to see those tiny tears in her eyes. Tiny tears make up an ocean. Tiny tears make up the sea. Let them pour out, pour out of love. Don't let them part out of me. How can you hurt someone so much you're supposed to care for? Someone you said you'd always be there for. But when that water breaks, you know you're gonna cry, cry. When those tears start rolling, you'll be back. But tiny tears make up an ocean. Tiny tears make up a sea. Let them pour out, pour out love. Don't let them pour over me.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Léo de Hurlevent, Émilie Brontë. En d'autres termes, riposta Heathcliff, il faut que je souhaite avoir les grands yeux bleus et le front uni d'Edgar Linton. Je le souhaite, et cela ne m'aidera pas à les avoir. Un bon cœur vous aidera à avoir une bonne figure, mon garçon. Fussiez-vous un vrai nègre, et un mauvais cœur donnera à la plus jolie figure quelque chose de pire que la laideur. Et maintenant que nous avons fini de nous laver, de nous peigner et de bouder, dites-moi, si vous ne vous trouvez pas plutôt joli garçon. Je vous dis, moi, que c'est mon avis. Vous pourriez passer pour un prince déguisé. Qui sait si votre père n'était pas empereur de la Chine ou votre mère reine dans l'Inde ? Chacun d'eux capable d'acheter avec son revenu d'une semaine ensemble Hurlevent et Thrush Cross. Mais vous avez été enlevé par de méchants marins et ramené en Angleterre. À votre place, j'aurais une haute idée de ma naissance. Et cette pensée me donnerait du courage et de la dignité pour supporter l'oppression d'un petit fermier. Je continuais de bavarder de la sorte. Heathcliff perdait peu à peu son air sombre. Il commençait même à prendre un visage tout à fait engageant. Quand tout à coup, notre conversation fut interrompue par le roulement sourd d'un véhicule qui montait la route et entrait dans la cour. Il courut à la fenêtre et moi à la porte. Juste à temps pour apercevoir les deux Linton descendre de la voiture de famille, emmitouflés dans des manteaux et des fourrures, et les Earnshaw descendre de leur monture. Ils allaient souvent à l'église à cheval en hiver. Catherine prit chacun des enfants par la main, les introduisit dans la salle et les installa devant le feu, ce qui mit vite de la couleur sur leur pâle visage. Je pressai mon compagnon de se dépêcher à présent et de montrer son aimable humeur. Et il obéit volontiers. Mais la malchance voulut qu'au moment qu'il ouvrait d'un côté la porte pour sortir de la cuisine, Hindley l'ouvrit de l'autre. Ils se trouvèrent face à face. Et le maître, irrité de le voir propre et joyeux, ou peut-être empressé de tenir la promesse faite à Madame Linton, le repoussa brusquement et ordonna d'un ton irrité à Joseph d'empêcher le drôle de pénétrer dans la pièce, de l'envoyer au grenier jusqu'après le dîner. Il va fourrer ses doigts dans les tartes et voler les fruits si on le laisse seul avec eux une minute. Non, monsieur, ne puis-je m'empêcher de répondre. Il ne touchera certainement à rien, et il me semble qu'il doit avoir sa part de friandises, tout comme nous. Il aura sa part de ma main si je le trouve en bas avant la nuit, s'écria Hindley. Va-t'en, vagabond. Quoi, tu essayes de faire l'élégant, n'est-ce pas? Attends un peu que je t'attrape une de ces gracieuses boucles. Tu vas voir si je ne tire pas dessus pour les allonger. Elles sont déjà assez longues, observa Master Linton, qui du seuil de la porte risquait un coup d'œil furtif. Je suis surpris que ne lui fasse pas mal à la tête, on dirait la crinière d'un poulain sur ses yeux. Il hasarda cette remarque sans intention d'insulte, mais la nature violente de Heathcliff n'était pas préparée à supporter l'ombre d'une impertinence de la part de quelqu'un qu'il semblait déjà haïr comme un rival. Il saisit une soupière remplie de jus de pomme brûlant. C'était le premier objet qui lui était tombé sous la main. Et la lança en plein dans la figure et dans le cou du discoureur. Ce dernier se mit à pousser des gémissements qui attirèrent en hâte Isabelle et Catherine. Monsieur Earnshaw empoigna sur le champ le délinquant et le conduisit dans sa chambre où, sans doute, il lui administra pour calmer son accès de colère un remède brutal, car il reparut rouge et essoufflé. Je pris un torchon et frottai sans grande aménité le nez et la bouche d'Edgar, lui affirmant qu'il n'avait eu que ce qu'il méritait pour s'être mêlé de ce qui ne le regardait pas. Sa sœur se mit à pleurer en déclarant qu'elle voulait rentrer à la maison. Et Cathy resta interdite, rougissant de toute cette scène. « Vous n'auriez pas dû lui parler, » dit-elle d'un ton de reproche à Master Linton. « Il était de mauvaise humeur. » Et voilà que vous avez gâté votre visite, et lui va être fouetté. Je déteste qu'il soit fouetté. Je ne pourrai pas dîner. Pourquoi lui avez-vous parlé, Edgar ? Je ne lui ai pas parlé, pleurnicha le jeune homme qui s'échappa de mes mains et termina le reste de sa purification avec son mouchoir de batiste. J'avais promis à maman de ne pas lui dire un mot et je ne lui ai pas dit un mot. Bon, ne pleure pas, répondit Catherine avec dédain, vous n'êtes pas mort. Ne faites plus de sottises, voilà mon frère, restez tranquille. Chut, Isabelle, quelqu'un vous a-t-il fait du mal à vous ? Allons, allons, les enfants, prenez vos places ! Cria Hindley en entrant précipitamment. Cet animal m'a donné joliment chaud. La prochaine fois, Master Edgar, prenez vos propres poings pour vous faire respecter. Cela vous donnera de l'appétit. Les convives retrouvèrent leur tranquillité d'esprit à la vue et à l'odeur du festin. Ils avaient faim après leur course et se consolèrent facilement puisqu'aucun d'eux n'avait eu de mal réel. Monsieur Earnshaw découpa de généreuses portions et sa femme égaya le repas par sa conversation animée. Je me tenais derrière sa chaise et je fus peiné de voir Catherine, les yeux secs et l'air indifférent, se mettre à couper l'aile d'oie qui était devant elle. Quel enfant insensible, me disais-je. Comme elle se soucie peu des chagrins de son ancien compagnon de jeu. Je ne l'aurais pas cru si égoïste. Elle porta une bouchée à ses lèvres, puis la reposa sur son assiette. Ses joues s'enflammèrent et ses larmes commencèrent à couler. Elle laissa tomber sa fourchette à terre et plongea en hâte sous la nappe pour dérober son émotion. Je ne la qualifiais pas longtemps d'insensible, car je vis qu'elle était en purgatoire pendant toute la journée et impatiente de trouver une occasion d'être seule ou d'aller voir Heathcliff qui avait été mis sous clé par le maître, ainsi que je m'en aperçus en essayant de lui porter en cachette quelques victuailles. Le soir, on dansa. Cathy demanda alors sa grâce sous prétexte qu'Isabelle Linton n'avait pas de partenaire. Ses prières demeurèrent vaines, et ce fut moi qu'on désigna pour combler la vacance. L'excitation de l'exercice dissipa toute trace de tristesse, et notre plaisir s'accrut à l'arrivée de la musique de Gimmerton, comprenant 15 membres, une trompette, un trombone, des clarinettes, des bassons, des cors de chasse et une basse-viole, plus les chanteurs. Chaque Noël, ils font ainsi le tour des maisons respectables et recueillent quelque argent. Les entendre était pour nous un régal de choix. Quand ils eurent chanté les cantiques habituels, nous les mîmes aux chansons et aux morceaux à reprise. Madame Earnshaw aimait la musique et ils nous en donnèrent en abondance. Catherine l'aimait aussi, mais elle prétendit qu'elle la goûterait mieux du haut de l'escalier et elle monta dans l'obscurité. Je la suivis. On ferma la porte de la salle du bas sans que notre absence fût remarquée, tant il y avait de monde. Catherine ne s'arrêta pas sur le palier, mais continua de monter jusqu'à la mansarde où Heathcliff était enfermé, et elle l'appela. Pendant quelque temps, il s'entêta à ne pas répondre. Elle persévéra et finit par le persuader de communiquer avec elle à travers les planches. Je laissai causer les pauvres enfants sans les inquiéter jusqu'au moment où je présumais que les chants allaient cesser et que les chanteurs allaient prendre quelques rafraîchissements. Je grimpai alors à l'échelle pour avertir Catherine. Au lieu de la trouver à la porte, j'entendis sa voix à l'intérieur. La petite coquine s'était glissée comme un singe par une lucarne sur le toit, de là par une autre lucarne dans la mansarde, et ce fut avec la plus grande difficulté que je pus la décider à ressortir. Quand elle revint, Heathcliff la suivait. Et elle insista pour que je l'emmenasse dans la cuisine, puisque Joseph était allé chez un voisin pour échapper au son de notre infernale psalmodie, comme il se plaisait à l'appeler. Je leur déclarai que je n'avais nulle intention d'encourager leur tour. Mais comme le prisonnier jeûnait depuis son dîner de la veille, je consentais pour cette fois à fermer les yeux sur sa fraude à l'égard de M. Hindley. il descendit. Je lui mis un tabouret devant le feu et lui offris quantité de bonnes choses. Mais il était mal à l'aise, ne put guère manger et repoussa toutes mes tentatives pour le distraire. Les coudes appuyés sur ses genoux, le menton sur ses mains, il resta plongé dans une méditation silencieuse. Comme je lui demandais quel était le sujet de ses pensées, il répondit gravement « Je cherche le moyen de rendre l'appareil à Hindley. Peu importe le temps qu'il me faudra attendre pourvu que j'y arrive à la fin. J'espère qu'il ne mourra pas avant que j'y sois parvenu. » « Vous n'avez pas honte, Heathcliff, dis-je. C'est à Dieu de punir les méchants. Nous, nous devons apprendre à pardonner. » « Non, Dieu n'aurait pas la satisfaction que j'aurais, répliqua-t-il. Je cherche seulement le meilleur moyen. Laissez-moi seul, je vais combiner quelque chose. Quand je pense à cela, je ne souffre plus. » « Mais, monsieur Lockwood, j'oublie que ces contes ne peuvent guère vous divertir. Comment ai-je pu songer à bavarder aussi longtemps ? Voilà que votre gruau est froid et vous tombez de sommeil. J'aurais pu vous dire l'histoire de Heathcliff, du moins tout ce que vous avez besoin d'en savoir, en une demi-douzaine de mots. » S'interrompant ainsi, ma femme de charge s'est levée et a commencé de ranger son ouvrage. Mais je me sentais incapable de quitter le coin du feu et fort loin d'avoir sommeil. « Restez assise, Madame Dean, me suis-je écrié. Restez assise encore une demi-heure. Vous avez parfaitement bien fait de me raconter l'histoire en détail. C'est la méthode que j'aime, et il faut que vous la finissiez de la même manière. Tous les personnages dont vous m'avez parlé m'intéressent plus ou moins. » « L'horloge va sonner 11 heures, monsieur. Peu importe. Je n'ai pas l'habitude de me coucher de bonne heure, 1 heure ou 2 du matin, c'est bien assez tôt quand on reste au lit jusqu'à 10. Vous ne devriez pas rester couché jusqu'à 10 heures, la meilleure partie de la matinée est déjà passée avant ce moment-là. Une personne qui n'a pas fait la moitié de son ouvrage de la journée à 10 heures risque de laisser inachevée l'autre moitié. » Néanmoins, Madame Dean, reprenez votre siège, car demain je me propose d'allonger la nuit jusqu'à l'après-midi. Je diagnostique pour moi un rhume sérieux pour le moins. » J'espère que non, monsieur. » Eh bien, vous me permettrez de franchir quelque 3 ans. Pendant ce laps de temps, monsieur Earnshaw. Non, non, je ne permets rien. Connaissez-vous cet état d'esprit où, si vous vous trouviez seul avec un chat occupé à lécher son petit devant vous, sur le tapis, vous surveilleriez l'opération avec un tel intérêt qu'il suffirait que le minet négligeât une oreille pour vous mettre sérieusement en colère? Un état d'esprit terriblement paresseux, il me semble, au contraire. Beaucoup trop actif, c'est le mien en ce moment. Par conséquent, continuez sans omettre aucun détail. » Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman « Les Hauts de Hurlevent » de Emily Brontë que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guillon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.